Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble avec vous jusqu'à 15h et avec Rémi Barré, avec Benjamin Hamar, notre militant CGT et prof d'histoire géo, la journaliste à l'incorrect Juliette Briens et le désormais propriétaire de gîte Jérôme Lavrieux. On va parler de fêtes foraines dans un instant avec des accidents de manège, des violences à la foire du trône. Est-ce qu'il faut en finir avec les fêtes foraines? Dites-nous si vous adorez ou si vous détestez. On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On se demandera si Aya Nakamura est une Twingo. C'est le chanteur Francky Vincent qui a dit ça hier. Et puis on se demandera également si Jean-Luc Mélenchon est victime de censure. À 14h, mode de vie, nourriture, voiture, on adopte de plus en plus les coutumes US. Sommes-nous en train de devenir des ricains? Là encore, on vous attend au 32-16 et sur la pierre MC. Et on terminera avec les immanquables, Rémi.
Oui, et on parlera notamment de la shrinkflation. Le gouvernement a décidé d'entrer en guerre contre ce phénomène, de remplacer, vous savez, enfin, l'emballage ne change pas, mais il y a moins de produits à l'intérieur. Il y aura bientôt des affichettes pour pointer du doigt ceux qui ne jouent pas le jeu.
Bah c'est génial, je le réclamais hier. Vous voyez comme l'État est réactif.
Mais voilà.
Incroyable.
Mais tu es la voix du gouvernement.
RMC, Estelle Midi.
4 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser aux faits divers du jour. Et c'est le décès d'un forain à la foire de Caen ce dimanche. Il a été tué par une nacelle alors qu'il intervenait sur un manège. Un drame qui survient alors que dans le même temps, la foire du trône à Paris est l'objet d'énormément de critiques à cause de nombreux faits de violence depuis son ouverture il y a 3 semaines. Les fêtes foraines, Rémi, n'ont plus la cote en ce moment.
Oui, des fêtes foraines déjà fortement impactées par la crise Covid et qui ne s'en sont pas vraiment remis depuis. Si aucun bilan national n'existe sur la fréquentation des fêtes foraines en France, il suffit de consulter la presse pour le constater, ce que j'ai fait ce matin. Mauvaise saison l'an passé pour la fête des loges, mauvaise saison pour la foire du trône, moins 50% de fréquentation pour la fête foraine d'Épernay, moins 30% pour la fête de Blossac près de Poitiers, mauvaise passe pour la fête foraine de Trouville ou d'Albi. En cause, ce qui était évoqué, c'est la saison dernière, donc, et les fêtes foraines elles se tiennent essentiellement au printemps ou l'été. En cause l'année dernière, donc la météo, parfois aussi, mais surtout, quoi qu'il arrive, l'inflation, sans compter sur les faits divers, comme par exemple les bagarres, coups de poing et coups de feu à celle de Montélimar. Ça, c'était le mois dernier. Bagarres et coups de couteau à Moulins l'été dernier. Un mort en marge de la fête foraine de Cambrai en août. Là encore, pas de bilan sur la totalité des bagarres ou des faits divers qui peuvent survenir en marge des fêtes foraines. Mais en tout cas, là, elles font la une des journaux, tout comme les accidents. À ce sujet, la dernière étude en date remonte à 2015. Selon cette étude, 459 accidents étaient survenus en 4 ans dans des fêtes foraines. Ça fait une moyenne de une centaine d'accidents chaque année. Bon, attention, la majorité de ces accidents sont sans gravité. Il s'agit de petites blessures. Mais depuis 2022, quand même, au moins 5 cas de décès ont été enregistrés. Bon, il faut le mettre en rapport avec le nombre de fêtes foraines organisées chaque année en France.
Oui, et puis la dangerosité des manèges aussi.
Il y a 35 000 fêtes foraines organisées chaque année en France.
Alors, accident, violence, faut-il en finir avec les fêtes foraines? Jérôme Lavrieux, vous avez des fêtes foraines, vous, à côté de votre gîte?
En ce moment, il y a une petite fête foraine sur la place de Piégu, dans mon village à côté. Oui. Enfin, c'est les autotamponneuses et puis un manège qui tourne. Ça attire les gens qui ont des enfants et qui veulent y aller. Donc, ce n'est pas des manèges dangereux. Là, on parle des grandes fêtes foraines. Déjà, il y a une course au gigantisme. Parce qu'il faut des manèges de plus en plus grands, où ça va de plus en plus haut, de plus en plus vite. Des manèges qui coûtent plusieurs millions d'euros parfois, souvent plus d'un million d'euros. Et ça attire beaucoup de monde, des gens qui ne savent pas se tenir, comme à la sortie des écoles, comme dans certains endroits. En plus, on peut y aller pour se donner des sensations fortes dans les manèges, et aussi pour manger, pour picoler, pour boire de la bière et autres.
Oui, parce que c'est gratuit. L'entrée dans les fêtes foraines est gratuite.
Oui,
les
tours de manège, c'est pas gratuit.
Bien sûr, et les consommations non plus.
Quand vous avez 3 enfants et qu'ils veulent tous en faire en même temps, vous pouvez pas rester 5 heures sur place.
C'est clair.
Donc c'est de plus en plus cher, et souvent en liquide d'ailleurs. Donc ça coûte beaucoup d'argent pour tout le monde, c'est de moins en moins accessible. Moi, je ne veux pas du tout qu'on mette fin à la fête foraine. Je suis originaire de Saint-Quentin, la fête de la foire de la Saint-Denis qui se déroule entre octobre et novembre, c'est un rendez-vous pour la ville qui est extraordinaire. D'accord. Qui se passe en général bien. Je pense qu'il faut que le monde forain se reprenne en main.
Mais là, c'est pas la foire du trône, c'est pas le problème des forains, c'est le problème des gens qui y vont.
Non, les 459 accidents dont Rémi a parlé, 459 en 4 ans, 2011-2015, il y aurait 459 incidents mettant en cause la santé des gens dans des avions en France, on ne prendrait plus l'avion.
C'est vrai. Donc, non, mais t'as raison.
Alors qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent l'avion que de gens qui vont dans une fête foraine. Donc il faut que chacun reprenne en main. Moi, j'ai toujours été effaré du temps où j'étais et je travaillais dans une collectivité territoriale. Alors ça a peut-être changé depuis, mais c'est que les grands manèges, il y avait une certification avec un organisme type APAV qui venait une fois par an pour vérifier la conformité aux règles de sécurité. Mais entre un montage et un démontage, il n'y avait pas d'organisme qui venait. Alors que le truc, il navigue. Et donc ça m'a toujours effaré. J'ai toujours été assez prudent sur le fait d'aller dans le manège.
Moi,
ou pas,
j'y vais pas comme ça, c'est
pour ça. Ouais. Après, la délinquance de voie publique, c'est inhérent à tous les rassemblements de foule. On vient pour faire la fête, pour picoler, etc. Quand vous allez dans des férias...
La foire du trône, tu vois que là aujourd'hui, c'est hallucinant. Quoi. Tu n'y vas pas avec tes gamins parce que tu sais que n'importe quoi peut arriver. Donc c'est
comme dans certains virages de certains matchs de foot. Comme dans une feria où on a tabassé à mort un gamin, un jeune homme l'année dernière, je crois.
Mais là, c'est tous les ans, en fait.
Je sais, parce qu'il y a une dérive. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut que, y compris les forains, se reprennent en main et qu'on applique la législation aussi sur l'alcool.
Juliette Briand, justement, est-ce qu'il faut arrêter de vendre de l'alcool
je ne pense absolument pas. Moi, j'ai vu les vidéos, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Aucun de ces gamins n'était alcoolisé. La fréquentation basique et normale de fêtes foraines, de Luna Park, etc. C'est-à-dire fréquentation racaille, qui emmerde les passants, qui se bagarrent entre eux, qui sont là pour emmerder le monde, parce que ça leur fait plaisir, pour casser, pour voler, comme partout. Donc, faut-il arrêter les fêtes foraines ? Moi, évidemment, je dis non. La foire du trône, ça a une histoire, ça date de l'an 957, j'ai appris ça.
Oui.
L'an 957, c'était une foire au pain d'épices à l'époque. Ça a toute
ça
une
a
histoire.
Ça a bien changé.
Oui, ça a changé. Non, ça je ne vous le fais pas dire, la population a changé aussi.
Des choses aussi, à mon avis.
Vous
avez les catapultes.
Mais si on arrête la foire du trône et on arrête les fêtes foraines, pour la fréquentation, on arrête beaucoup de choses. Hein. On arrête de prendre le métro, on arrête d'aller au parc, on arrête d'aller dans certains concerts. C'est toute la société qui est comme ça. Après,
on légifère surtout aujourd'hui. En fait. Dès qu'il y a un incident, on est là, il faut fermer, etc.
Vous me connaissez Estelle, pour savoir que c'est pas mon truc de légiférer surtout.
Donc là, t'as des accidents mortels, t'as des gamins qui, comme tu le dis, se conduisent pas forcément.
Moi, si j'étais forain.
T'as des bagarres, t'as des violences.
Non, mais moi, au niveau de l'État, je ne fais rien. À part évidemment beaucoup plus de contrôle sur les réparations et les installations des manèges, ça évidemment, parce qu'on parle de la vie des gens. Moi, si j'étais forain, je fermerais les parcs et je ferais payer l'entrée pour voir ce que ça donne.
Oui, mais enfin, il y a des fêtes foraines où c'est pas possible. Parce qu'il y a des fêtes foraines.
Non,
il y a des fêtes foraines qui sont installées en plein milieu du quartier, en plein milieu de certaines villes.
Ouais. Tu mets des barrières, mais payer l'entrée.
Mais je dis pas que c'est la solution, ça pourrait être un essai.
Non.
Qui va faire le filtrage ?
Non, mais pour la fréquentation en l'état, il n'y a rien d'autre à faire.
Pas tous en même temps.
Pardon.
Alors, donc, bien évidemment que. Enfin, là, on découvre. La foire du trône, moi j'y allais quand j'avais 15 ans.
Oui.
Et c'était déjà les mêmes phénomènes. Alors il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on ne pouvait pas filmer le bordel qui s'y passait. Mais ça m'est arrivé, moi, de me bagarrer à la foire du trône parce qu'il y avait des gens.
Quel voyou celui-là ?
Tu y vas avec ta petite copine et il y a des gens qui viennent essayer effectivement de te pourrir la vie, tu te laisses pas faire. Donc, mais c'était quelque chose qui...
Chevalier.
Chevalier, c'est la base quand même. On vient pour te dépouiller, tu te laisses pas faire. Donc, c'est pas nouveau, c'est ancien. Donc ça, effectivement, il est hors de question d'en finir avec les fêtes foraines à cause de ça, parce que autrement, on arrête tout.
On n'arrête pas tout.
Donc on n'en finit pas avec les fêtes foraines. Éventuellement, on renforce les services de sécurité privée, les présences de policiers sur place. On ne met pas une entrée payante parce que, comme l'a dit Jérôme, ça coûte déjà suffisamment cher les manèges. On ne va pas en plus rajouter de l'argent pour payer à l'entrée. Par contre, pour la sécurité dans les manèges, moi j'adore les manèges et quand même il y a eu un certain nombre d'accidents graves. Ça nécessiterait sans doute là aussi des contrôles de sécurité renforcés.
J'avoue que les chiffres.
Parce que quand on apprend qu'il y a des gens qui voltigent à 30 mètres parce que les écrous ne sont pas bien serrés, ça fait peur. Surtout quand on les fréquente assidûment. Donc je pense que c'est des choses assez simples, mais bien évidemment, on ne supprime pas ces fêtes populaires qui, de fait, ont des vertus parce qu'elles rapportent de l'argent dans un certain nombre de communes et parce que c'est des lieux sympathiques. c'est des lieux de,
bah de
c'est
moins des en lieux moins populaires.
Et moi personnellement, je trouve que c'est des lieux que je continue à fréquenter, que j'aime bien.
Mais vous allez encore en fête foraine, vous achetez les petites pommes d'amour et tout, pas.
Non, pas les pommes d'amour, je trouve ça dégueulasse.
J'adore ça.
Les tirs à la carabine et les manèges à sensation, j'avoue.
Mais excuse-moi, moi j'aime que les trucs avec les plaques d'argent. Vous savez, quand il y a les pièces, et vous mettez une pièce et ça tire les autres pièces, vous pouvez gagner une fortune.
C'est sympa ça.
Mais je gagne jamais, mais je peux y passer du temps, je peux dire.
C'est un peu comme au casino, on gagne rarement quand même. Mais c'est ça.
Par contre, Benjamin, tu peux pas dire que cette situation a toujours existé. Fut un temps où on pouvait aller en famille à la fête foraine sans avoir peur de se faire.
T'avais toujours des bagarres à soir.
Mais peut-être des bagarres entre bandes, mais je veux dire. À l'époque, t'avais pas peur d'aller en famille à la foire du trône, c'est faux de dire l'inverse.
Je te garantis qu'à la foire du trône, quand j'avais 15-16 ans, il y avait.
On pouvait aller tranquillement dans une fête foraine sans risquer de se prendre une balle dans la tête.
Mais si t'y allais à 15h, mais t'y allais pas à 22h.
Tu pouvais te faire racketter, il y a toujours eu des difficultés comme ça.
Alors, on est en ligne avec Gilles qui nous appelle de Blois et qui est responsable sécurité. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Comment on fait pour remettre de la sécurité dans les fêtes foraines?
Alors, c'est surtout que moi j'ai habité Porte Dorée depuis... Alors, je précise, j'ai 51 ans.
D'accord.
Moi, j'ai vécu de 10 ans, de mes 10 ans à mes 20 ans, à côté de la foire du trône.
D'accord.
Et d'ailleurs, je rejoins Monsieur Hamar là-dessus, c'est que d'ailleurs, on avait la principale du collège qui venait nous chercher régulièrement parce qu'on allait aider les forains pour monter les manèges au départ, et ça nous permettait d'avoir des jetons gratuits. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai connu la fête foraine, donc pelouse d'Aurilly, non clôturée. Il y a toujours eu des problèmes de bagarre là-bas. Et d'ailleurs, il y avait déjà des histoires de clans, c'était par les auto-tamponneuses. C'est-à-dire que vous aviez les premières auto-tamponneuses, c'était les gens du quartier. Vous aviez un autre cycle d'auto-tamponneuses, c'était des bikers. Et vous aviez une troisième auto-tamponneuse, c'était des gars des quartiers, banlieues ou je ne sais quoi. Mais par contre, à l'époque, effectivement, il y a des bagarres et tout. Sauf que c'est les forains qui faisaient la police. Et je peux vous dire que dès qu'il y avait une bagarre, les forains, ils s'en mêlaient, c'était réglé vite fait, bien fait.
Ça a été le cas à la fin. Ouais, mais après, les jeunes sont peut-être plus les mêmes, Gilles.
Il y a 30 ans.
Ouais, mais les jeunes sont peut-être plus les mêmes, c'est ça le truc.
Et vous savez. Si, attendez.
Ouais, mais vous savez, les téléphones portables. Imaginez, il y a un forain qui va faire le coup de poing. Le lendemain, il est sur une vidéo, etc. Vous voyez, il risque de perdre son business.
Excusez-moi, c'était plus une question. Là, c'est pas une question de portable ou quoi. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis à Blois, il y a pas très longtemps, un problème avec la fête foraine à Blois. Effectivement, des jeunes qui sont venus mettre le bazar dans la fête foraine, les forains, portables ou pas, ils ont mis le ménage, ils ont fait le ménage, pourquoi? C'est leur gagne-pain.
Oui, d'accord, mais on ne peut pas demander aux forains, d'assumer la sécurité.
Les forains eux-mêmes disent qu'il y a une montée de violence dans leurs propres parcs. C'est quand même pas une invention.
Moi, à mon avis, c'est pas qu'il... Laissez-moi finir. C'est pas qu'il y ait une montée de violence. C'est que le fait est que maintenant, effectivement, avec les téléphones portables et tout, la violence est montrée. Mais elle a toujours existé à la foire du trône.
Mais
je suis désolé, les règlements de compte entre quartiers, entre bandes et tout, a toujours existé. Maintenant, effectivement, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on montre par image, YouTube ou je ne sais quoi, effectivement, maintenant, c'est démultiplié par c'est la ça. Vision. Mais la réalité a toujours été là.
D'accord.
On savait que à certains moments, il fallait pas se pointer. Voilà, exactement. D'accord. Ça a toujours existé. Moi, je l'ai connu. Je vous dis, j'étais gamin.
Oui, c'est ça, il y a 30-40 ans. Vous dites exactement la même chose que Benjamin Hamar qui fréquentait ces fêtes foraines à peu près à la même période. Merci en tout cas, Gilles, d'avoir été avec nous. On a plein de messages sur l'appli RMC. Faut en finir ou pas avec les fêtes foraines, Rémi?
Julien nous dit, pour les violences dans les fêtes foraines, à Palavas, on a un Luna Park où ils ont mis des vigiles à l'entrée depuis 2-3 ans et pour contrôler les personnes et les sacs. Et il y a aussi des gendarmes qui font des patrouilles régulières. Pour ce qui est des accidents, ça pourrait aussi arriver dans les grands parcs d'attractions. Fermer les fêtes foraines, ça mettrait des milliers de familles de forains sur la paille et ça désolerait des millions de Français.
Alors, on est avec notre invité aujourd'hui, c'est René Ayoun, il est président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France. Bonjour René.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour des fêtes foraines. On voit beaucoup de vidéos de violence, notamment à la foire du trône. Est-ce que vous nous dites, René Ayoun, que la violence, elle a augmenté et que les forains, on va dire, sont plus en danger qu'avant? Ou est-ce que ça a toujours été le cas?
Alors, je vais vous expliquer déjà une chose. Alors, il y a déjà deux points, parce que là, vous tombez sur peut-être la bonne personne, parce qu'en plus, je suis un des élaborateurs du texte de loi de la sécurité des manèges de fêtes foraines et de parcs d'attractions.
Très bien.
Donc, je vais vous répondre aussi à différents... Donc, déjà, différents pour points. Commenter, la sécurité sur les fêtes foraines. Aujourd'hui, nous avons des phénomènes de société, des jeunes qui viennent pour faire du buzz, donc se prendre en vidéo ou quoi que ce soit, pour faire un petit peu le concours. La fête foraine n'a jamais été insécurisée. Dans le sens que nous sommes un lieu où nous recevons du public. Le public rentre gratuitement. On ne peut pas cloisonner les choses à interdire à telle et telle personne de rentrer. Vous avez la foire de la Saint-Romain à Rouen, où il y a des, comme c'est une des plus grandes foires de France, où à l'entrée vous avez donc des vigiles qui fouillent les personnes, telles que la foire du Trône et ainsi de suite. Et vous avez des petites fêtes de petites communes qui sont, on va dire, plus.
C'est sur la fête de la place du village.
Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas l'insécurité de la fête foraine, c'est la société qui est malade. Nous, on essaye du mieux possible, avec les contacts que l'on a avec les polices nationales, aussi bien avec les préfectures et les polices locales, de manière, même quelquefois, prendre des vigiles personnellement pour arriver à sécuriser certains endroits. Mais aujourd'hui, la fête foraine est un lieu populaire, et malheureusement, comme tout lieu populaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bandes de jeunes qui viennent, ou des malfaisants qui viennent pour ou marquer leur territoire, ou pour faire
le coup de poing, quoi.
Voilà, pour faire un petit coup de force. La fête foraine n'est pas un lieu d'insécurité. Vous allez au supermarché, vous pouvez vous faire agresser.
C'est plus rare. Voilà, en tout cas, je peux rarement mourir d'un accident de chariot. Oui, c'est...
Oui, non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une particularité, on rassemble des milliers de personnes qui viennent passer un agréable moment. Quand vous avez des milliers de personnes, c'est sûr qu'il arrive un moment, il peut y avoir des personnes qui viennent passer... leur petit truc en disant ben voilà on va faire notre business, on va se faire remarquer. Ça c'est une chose.
Mais vous vous sentez en insécurité aujourd'hui, René Ayoun, ou pas du tout?
Non, pas du tout, parce que on arrive quand même aussi à maîtriser un petit peu ce flux de, on va dire, de personnes malveillantes qui viennent. Bon, il est vrai que quelquefois on est obligé aussi un petit peu de se mettre en avant.
Mais
c'est déjà pour protéger le public, protéger aussi nos activités.
Mais c'est pas à vous de le faire.
Protéger nos commerces, protéger nos familles et protéger aussi nos entreprises, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fête foraine, ce sont des entreprises. Et des entreprises indirectes aussi qui travaillent pour nous. Aujourd'hui, quand j'entends parler, faut-il supprimer les fêtes foraines? Non, il faut simplement que la société se soigne. Parce que je pense que la société est malade. Et je pense que les hauts dirigeants devraient s'attirer un peu plus, justement, s'attacher un peu plus à ce qui se passe en France. C'est malheureux de faire un constat, mais je pense que c'est la France qui est malade.
René Ayoun, on va parler des manèges aussi. C'est vrai qu'il y a eu, encore un accident là, avec un homme qui a été tué à Caen lors d'une fête foraine à cause d'un accident de manège. C'était un forain qui réparait une nacelle. Aujourd'hui, comment je peux être sûr, moi, si je vais à la fête foraine, que le manège dans lequel je m'installe, il n'y aura aucun souci?
Alors, Madame Denis, je vais vous expliquer très simplement. Aujourd'hui, les manèges ont une vérification pour les manèges de grande capacité et les manèges de haute sensation. Ils ont une vérification annuelle.
D'accord.
Mais chaque fois que le forain monte ou démonte son manège, déjà, il signe un document et engage sa responsabilité sur le montage et le bon entretien du matériel.
D'accord.
Nous avons des commissions de sécurité aussi locales qui passent dans les communes, dans les grandes communes. Ça, c'est obligatoire. Et le patron ou le responsable de l'entretien du manège, tous les matins, avant l'ouverture, vérifie tous les points sensibles. Ça, c'est une chose. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, quand vous parlez d'accidents sur les manèges, aujourd'hui, la faute du public aussi est responsable, parce qu'elle ne suit pas les consignes de sécurité.
D'accord.
Ce qui s'est passé à Caen, malheureusement, notre collègue a perdu la vie, puisqu'il était en train d'entretenir le manège. À l'heure actuelle, il est vrai qu'il y a une enquête qui est faite, dans le sens qu'on ne sait pas s'il a eu un malaise, si c'est une malveillance, une voiture qui est arrivée quand il ne fallait pas, si c'est une faute personnelle.
D'accord, enfin, il y a une enquête.
Il y a une enquête. Mais à 95%, les accidents qu'il y a eu, ce sont des fois par des fautes d'inattention ou des non-respects de règles de sécurité.
C'est ça, on se détache du harnais, etc. Oui, voilà, c'est pas des boulons, c'est de l'inconscience.
On essaye de se planter ou de faire un selfie, ou de vouloir, vous savez, parce que la mode en ce moment, c'est de faire un selfie dans un manège, donc on essaye de se dégager de la ceinture de sécurité. Ceintures de sécurité sont bien fermées. Quelquefois, vous avez des personnes qui bloquent avec le bras. Mais ça, les employés, lorsqu'ils ferment les barrières des manèges à haute sensation, appuient bien pour bien bloquer. Donc là-dessus, pour nous, on est au top. Lorsqu'on parle de réaménagement du texte de loi, actuellement...
Très rapidement, René, très très rapidement.
Voilà. Donc aujourd'hui, la sécurité des manèges, il n'y a aucun problème. J'ai vu aussi que vous parliez de moulins. pour les coups de couteau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont reçu les coups de couteau, c'est des gens qui ont reçu des coups de couteau dans la rue et qui sont venus se réfugier à la fête foraine. Et c'est les forains qui ont sauvé la vie de ces gens-là. Ça n'avait rien à voir avec nous.
Okay,
donc, vous voyez, il y a des faits qui sont... Voilà, il y a des faits qui se passent à côté et on en est, et disons, on a, après, on est un
parent
responsable.
Et vous en êtes victime. Merci beaucoup, René Ayoun, en tout cas, pour toutes ces explications. Et on sent à quel point vous aimez votre métier et à quel point vous tenez aux fêtes foraines. On va terminer avec le témoignage de Philippe qui nous appelle de Nevers et qui est éducateur sportif. Bonjour Philippe.
Bonjour et bonjour tout d'abord, oui.
Voilà, bah bonjour et bonjour. Bah, écoutez, bonjour Philippe. Philippe, adepte ou pas des fêtes foraines?
Alors moi, j'ai été adepte quand j'étais ado. J'habite dans une petite ville, donc il y a pas mal de fêtes à droite à gauche.
Ouais.
Adepte en tant qu'ado, maintenant c'est pas du tout ma tasse de thé, mais j'aime bien m'y promener, l'odeur, l'ambiance,
ça sent le chaud,
voilà, des choses comme ça, regarder les gens crier, rire, tout ça. Alors là, on est à Nevers, c'est-à-dire que oui, il y a toujours eu des fois des sous-fonds d'alcool, hein, souvent, des bagarres la nuit, enfin plutôt en fin de soirée, mais je compare pas par rapport à Foire du Trône, mais de là à enlever toutes les fêtes foraines, moi je dis bien sûr, la société a changé et pas en bien par rapport à la violence. La Foire du Trône, j'y suis allé une fois et j'avais été dans une fête vers chez vous. Enfin, vers chez vous. Sur la région parisienne, ça s'appelait la Foire des Loges, je crois, ou la Fête des Loges.
La Fête des Loges.
La Fête des Loges, qui était, je sais pas si ça existe encore.
Saint-Germain-en-Laye, ouais.
C'est une grande fête. Donc voilà, je pense que sur les grosses fêtes comme ça, peut-être à réfléchir sur les comment on appelle ça, sur la sécurité. Parce que d'y aller en famille, oui, ça fait peur quand on voit les images et tout. Mais c'est vrai que ce que disait votre... Il y a un intervenant...
L'invité, René Ayoun.
Voilà, qui disait il y avait aussi des... les forains faisaient leur propre sécurité, mais à des échelles beaucoup plus... Moins ce que, par rapport à ce qu'on voit, c'était dérisoire. Mais moi, je serais pour une réflexion sur les grosses villes, quitte à faire payer, comme dans les parcs... les parcs de loisirs, une entrée avec de filtrer.
On se comporte pas pareil quand on paye et quand on paye pas.
C'est clair, je vous l'accorde. Mais sur des grosses manifestations comme la Foire du Trône, c'est le problème de société et de délinquance qui peut drainer. Voilà. Mais sur les petites communes, sur les petites communes comme Nevers. Enfin, ouais, hormis que ça dérange pendant 15 jours, ça fait du bruit. Là, y a les
et c'est pas très joli quand même, hein, tous les néons là et tout. Bah,
ouais, mais on les sort.
C'est pas très écolo.
Oui, mais sinon on fait plus rien. Enfin voilà.
D'accord.
Des fois c'est 15 jours. Et je vais clore juste. Il y avait à Nevers, il y a un truc qui s'appelle la Nevers plage. Et chaque année, il y a des gens qui se plaignent du bruit. Donc voilà. Mais on est vraiment. Moi j'ai 62 ans. Arrêter... Ben, j'aimais mieux avant. Voilà.
C'est ça. Il faut arrêter de se plaindre et profiter. Mais c'est vrai qu'il faut faire évidemment la différence entre les très très grandes fêtes comme la Fête des Loges ou encore la Foire du Trône et effectivement les fêtes foraines de village. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On a de nombreux messages sur l'appli RMC. Fan de fêtes foraines ou pas du tout,
Rémi, nos auditeurs. Des gens déplorent la remise en question des fêtes foraines, comme Emmanuel qui nous dit, comme tout le temps en France, c'est la majorité de la population qui risque de payer pour une minorité de délinquants en puissance qui ne respectent pas la loi. Il faut absolument mettre en sécurité nos fêtes foraines.
Alors, le résultat de notre consultation sur Twitter, justement, faut-il en finir avec les fêtes foraines?
Mais non. Bah non. 71% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Très bien.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC, on parlera de Aya Nakamura, parce que c'est Francky Vincent, vous savez, le chanteur, vas-y Francky, c'est bon, qui l'a traité de Twingo, hier, sous-entendu, c'est pas une voiture de luxe, quoi. Donc on se demandera si on est d'accord ou pas d'accord. On se demandera également si Jean-Luc Mélenchon a été victime de censure, et est-ce qu'il faut durcir les conditions du retrait de permis, enfin, c'est-à-dire retirer un permis juste pour un téléphone au volant, par exemple, c'est ce qui va se passer en Italie. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France? On en débat dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h30, on est avec vous dans Estelle Midi jusqu'à 15h sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est avec Rémi Barré, on est avec Benjamin Hamard, Juliette Briens et Jérôme Lavrieux. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Aya Nakamura fait-elle l'unanimité parmi les Français? Hier sur C8, le célèbre chanteur guadeloupéen Francky Vincent a relancé le débat sur le choix de la chanteuse pour la cérémonie d'ouverture des JO. Il l'a même comparé à une Twingo, sous-entendu à une voiture bas de gamme, une prise de parole saluée par le consultant en entreprise DGG Antoine Diers.
Merci à Francky Vincent pour son honnêteté. Il n'est pas dans le politiquement correct, il n'est pas dans la lecture raciale, etc.
Il n'est pas dans le politiquement correct.
Et Francky il dit Vincent. Mais attendez, c'est absolument nul, pourquoi on fait ça? Merci, c'est une irruption de la réalité et du bon sens.
Est-ce qu'Aya Nakamura est une Twingo, Benjamin Amar?
Non, mais je trouve que. Alors, moi, honnêtement, musicalement, Aya Nakamura, c'est vraiment pas ce que j'écoute. Vraiment, voilà, elle a sa carrière et tout, mais c'est pas une artiste que j'écoute du tout. Mais je trouve que la campagne contre elle, qui mélange tout d'ailleurs, est ignoble. Voilà. Et d'ailleurs, les propos de Monsieur Vincent, qui, à ce que je sache, n'est quand même pas la petite fleur des petites pois en matière de qualité musicale.
Bah, vas-y, Francky, c'est bon.
Oui, oui, très bien, mais bon, voilà. Ah, oui. Mais en l'occurrence, la traiter de Twingo, c'est extrêmement désagréable. C'est une parole publique qui est très insultante. Et d'ailleurs, dans le passage des grandes gueules, on voit bien qu'on est en train de, certains mélangent tout. Oui. C'est pas là que moi je parle pas de l'origine ethnique de Madame Nakamura. Je parle de ce qu'elle chante. Bon, moi c'est pas ce que j'écoute. Ouais. Il est indéniable qu'elle a du succès. Il y a donc un choix qui se fait en fonction du succès. La polémique derrière, y compris les insultes publiques permanentes. Personnellement, je trouve ça ignoble.
Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Lavrieux?
Non, mais franchement, j'y connais rien en musique, mais Francky Vincent qui se moque d'Aya Nakamura, c'est quand même la planche à roulettes qui se moque de la Twingo.
C'est clair.
Donc, la Twingo va plus vite que la planche à roulettes. Donc voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de talent et que c'est une des artistes françaises ou francophones qui vend le plus dans le monde. On n'en a pas tant que ça. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et arrêtons de faire des polémiques, il n'y en a pas lieu. Si il y a que les gens de ma génération qui vont comprendre ce que je veux dire, mais ce qu'a fait Monsieur Francky Vincent, c'est 36-15, j'existe. On parlait pas de lui en disant ça, on parle de lui. Il va en vendre un petit peu de sa seule chanson connue.
C'est pas pour ça qu'on a envie d'aller écouter Francky Vincent, tu vois.
Non, pourtant c'est un grand mélomane, mais qui s'ignore.
Oui, ouais, c'est pas pour ça qu'on le connaît forcément. En tout cas, elle va quand même avoir une énorme pression sur les épaules, Aya Nakamura, lorsqu'elle va chanter lors de la cérémonie des JO.
Parce si c'est elle, parce qu'on ne le sait pas encore.
Bah, je pense que ce sera elle quand même.
Elle fera partie, mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres.
Oui, bien sûr, mais c'est elle qu'on attend. C'est-à-dire que les autres, en vrai, ils sont tous éclipsés. On peut te donner n'importe quel nom désormais. T'as qu'une envie, c'est d'entendre Aya Nakamura, de voir comment elle va se débrouiller sur du Edith Piaf, si c'est sur du Edith Piaf, et de voir ce que ça va donner. Donc ça lui met quand même une énorme pression.
Ouais. Je suis désolé parce que Michel Sardou a dit non, mais moi, j'aurais adoré qu'il se soit lui.
Moi aussi, un duo Michel Sardou et Aya Nakamura, mais ça aurait été
c'était
génial.
C'était un truc du Gorafi, hein, je vous rappelle.
Bah ouais, mais c'était une bonne idée. Le face-à-face RMC ce matin. Jean-Luc Mélenchon a-t-il été victime de censure? Le leader de la France insoumise souhaitait faire une conférence à Lille en compagnie de Rima Hassan, une militante franco-palestinienne très controversée. La conférence a été deux fois interdite, d'abord par le président de l'université, puis ensuite par le préfet. Un grave problème démocratique que dénonçait ce matin sur RMC la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot.
Rendez-vous compte qu'hier, en une journée, pour la deuxième fois, la conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été annulée. Puis, vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche, un référé en cours, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Je le dis sur la conférence, dans quelle démocratie, en pleine campagne électorale, des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté
vous
de réunion
avec la campagne électorale
et d'expression? Bien sûr. Dans quelle démocratie ça existe? Dans quelle démocratie?
Oui, mais sauf que je pourrais vous dire que que finalement la conférence a eu lieu, mais que dans une république bananière, en l'espèce, elle aurait été annulée et elle n'aurait pas eu lieu.
Oui, eh bien, si elle a eu lieu, c'est parce que nous avons tenu bon. Et je suis fière qu'il n'ait pas réussi à faire taire les voix de la paix.
Juliette Bréhens, est-ce qu'on peut parler de censure concernant Jean-Luc Mélenchon?
Oui. Voilà. Moi, j'ai aucune raison de censurer mes ennemis. Je les combats sur le plan politique, sur le plan des idées. Et je ne m'abaisse pas à leur méthode. Et vraiment, la droite la plus bête du monde, pardon de leur dire, c'est ceux qui font exactement ça, qui se plaignent de la censure permanente dont on est victime. Vous pouvez encore voir M. Éric Zemmour et M. Orban à Bruxelles.
Oui, c'est pas le gouvernement français, là.
Oui, non, mais bien sûr, mais c'est une censure générale. J'ai bien compris, c'est à Bruxelles.
Et Emmanuel Macron a désapprouvé, justement.
Aller faire la même chose à nos ennemis et à ceux à qui on reproche de nous le faire tout le temps. C'est absolument ridicule. Jean-Luc Mélenchon a le droit de s'exprimer, comme chacun. Et il faut évidemment le combattre sur tous les plans, sur le plan des idées, avec des arguments concrets. Mais c'est tout, en toute démocratie, avec la liberté d'expression. Mais on a de plus en plus tendance, et je le dis tout le temps, à prendre des mesures incroyables avec la liberté d'expression, et à prendre des libertés, pardon, avec la liberté d'expression dans ce pays. Pour moi, c'est un des droits fondamentaux en France le plus menacé.
Jérôme Lervieux, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, parce que moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est leur tract avec leur invitation. Vous avez en bas à droite un logo avec le drapeau palestinien qui reprend la carte. Il n'y a pas l'État d'Israël.
C'est le logo de l'association qui organisait la conférence.
Et ça ne justifie en rien. En France, on ne fait pas de manifestation publique dans laquelle on nie l'existence même de l'État d'Israël. Ça a des relents d'antisémites. L'antisémitisme en France, ce n'est pas une expression, ce n'est pas une liberté d'expression, c'est un délit. Et donc pour moi, rien que pour ça, il fallait interdire cette conférence.
Benjamin Hamar, il fallait interdire ou pas la conférence ?
Alors, moi je partage pas les propos de Jean-Luc Mélenchon sur ce qui se passe, notamment la manière, certaines déclarations qui ont pu être faites, certains tweets qui ont été écrits. Je m'en suis expliqué ici. Pour autant, moi je pense que c'est une grave erreur que de censurer. La question au Proche-Orient, c'est une question complexe. Qui remonte à plusieurs décennies, qui nourrit des débats virulents depuis longtemps, depuis 1967. Les débats, y compris dans les universités françaises, ont été virulents. Je pense que c'est en laissant les réunions se faire, les expressions se dérouler, qu'on peut effectivement, c'est la première chose pour avoir ensuite un débat serein. Bien évidemment, si pendant la conférence des propos sont tenus qui sont inacceptables, ils seront
Mais
alors, sur ça, sur la question du logo, moi j'ai écouté les responsables de la France Insoumise, il y a eu encore récemment, même sur BFM, Monsieur Bompard, ils font allusion au fait que, par exemple, le logo de l'UEJF est aussi, ne montre pas les frontières. Bon, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, je pense que on doit laisser l'expression se faire. Si à l'intérieur il y a des gens qui disent que l'État d'Israël doit être supprimé, eh bien là, c'est un propos qui méritera effectivement d'être qualifié. Mais attention, toutefois, soyons précis. Ce qui est punissable par la loi, c'est l'expression de l'antisémitisme.
Exactement.
L'expression écrite est aussi punissable.
Moi personnellement, je tiens à dissocier les deux choses. L'antisémitisme est punissable par la loi. L'antisionisme, le fait d'avoir effectivement une hostilité viscérale à l'égard d'Israël, c'est un point de vue que je ne partage pas, mais c'est un point de vue qui a le droit de s'exprimer. Et de la même manière, il y a des gens aussi qui vous disent dans le spectre politique que la Palestine n'a pas existé, que c'est un État qui ne doit pas exister. Ça n'est pas punissable par la loi. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des principes applicables pour tout le monde. Sans ça, on développe effectivement des hostilités politique profonde.
Et on leur donne l'occasion de se victimiser, c'est absolument contre-productif parce que maintenant ils sont sur tous les plateaux en train de dire regardez, nous sommes victimes, etc. Et donc on n'a pas débattu, on n'a pas combattu personne sur le plan des idées et c'est totalement catastrophique.
Donc ils ne sont pas censurés.
Les GG ce matin sur RMC, pour ou contre un durcissement du retrait de permis? C'est ce que vient de voter l'Italie afin de sanctionner immédiatement les contrevenants pour des fautes graves. Un retrait de permis court pourra donc être immédiatement appliqué en cas de non-respect des feux tricolores ou encore de l'utilisation du téléphone au volant. Une mesure que partage la fonctionnaire des GG, Zora Habitant.
D'abord, on rigole pas avec la route. La route, c'est sérieux. C'est pas un terrain de jeu où on fait n'importe quoi. Donc, du point de vue pédagogique, oui, ça peut être dissuasif sur le moment parce que tu prends la route pour partir en vacances ou tu bosses et on te dit, tu te mets sur le côté, tu ranges ta voiture, il y a une dépanneuse qui vient, qui la ramène chez toi et on te prend ton permis. Ça fait drôle quand même. Donc, moi, je suis assez pour. Maintenant, je pense que les gens, quand on va faire ça, alors il y a les gens très sérieux et responsables qui vont se dire, on me retire le permis 15 jours, je ne vais pas rouler, je trouverai un autre moyen parce que je ne veux pas me mettre dans une situation difficile, encore pire que 15 jours de permis en moins. Et puis il y a les fous qui vont quand même rouler.
Est-ce qu'il faut durcir les conditions de retrait de permis, Juliette Brien, c'est-à-dire en tout cas retirer le permis pour peut-être un temps court, mais pour plus de choses?
Moi, je suis partagée parce qu'en fait, je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est le permis et la voiture pour certaines personnes. Ouais. C'est ce qui les fait travailler. Tout simplement, c'est un.
Mais on leur enlève pas si elles ne contreviennent pas à la loi. C'est-à-dire qu'on leur enlèverait le permis si elles font une faute.
Oui, mais pour quel type de faute? J'ai besoin de savoir.
Tu prends le téléphone au volant.
Pour un excès de vitesse.
Téléphone au volant. téléphone au volant, par exemple, tu sais que tu ne dois pas prendre le téléphone au volant.
Ouais.
Je pense que tout malheureusement, beaucoup de gens
non, mais
font.
C'est vrai, ça.
Mais tu sais que tu... Voilà, donc à partir du moment, même si tu as besoin de ta bagnole, justement, si ta voiture, c'est hyper important pour toi, bah, tu ne prends pas ton téléphone au volant. Mmh. Voilà. Et dans ces cas-là, sinon tu sais qu'effectivement, bah, la sanction, elle peut être terrible.
J'ai du mal à m'exprimer. Je sais pas. Vraiment, c'est pour une fois, je tiens à le dire.
Oui, c'est vrai que c'est pas. Assez rare.
Voilà.
Moi, je suis à fond pour ce type de mesure. Ouais. D'autant plus si c'est essentiel pour toi. Tu fais attention. On en revient au débat qu'on a eu avant sur les enfants. Si tes enfants sont importants pour toi, tu fais attention à ce qu'ils ne commettent rien. C'est pas un petit délit de téléphoner en conduisant. Tu vois pas le gamin qui passe devant toi. C'est pas un petit délit de passer au rouge. Parce que sinon, tu te fais buter par une autre voiture qui n'avait rien demandé. C'est peut-être toi ou tes enfants qui vont la conduire, qui eux vont avoir des séquelles graves si ce n'est avoir un accident mortel. Donc, perdre 15 jours pour te rafraîchir les idées, parce que ça fait pas seulement les jeunes, mais parfois 10, 15, 20, 30 ou 40 ans que tu as ton permis, parce que ça concerne aussi des personnes plus âgées. Et je suis pour une autre mesure, c'est que si tu es contrôlé en état d'ébriété ou sous stupéfiant en conduisant ta voiture, on supprime le permis et la voiture est confisquée, même si ce n'est pas la tienne.
Ouais. Oui, alors le problème, c'est que c'est quand même assez discriminatoire. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, toi, tu as les moyens d'aller prendre un taxi ou d'aller prendre d'autres choses parce que tu n'as pas ta voiture et ton permis... Je veux dire, ce sera plus facile pour toi que pour quelqu'un qui effectivement fait les 3-8 et vit à la campagne et ne peut pas se payer le taxi et tout. Donc en fait, la mesure, elle ne sera pas prise de la même manière pour tout le monde. Quoi.
Et c'est indispensable pour toi, la voiture, tu ne conduis pas bourré, tu ne conduis pas en ayant fumé et tu grilles pas les feux tricolores.
Mais tu vas avoir des gens qui vont mieux s'en sortir que d'autres pour la même
cause. En fait, comme ça, on aura sauvé la vie à quelqu'un qui n'a pas les moyens.
En fait, ce qui est intelligent peut-être, c'est parce que là, ce qui se passe, c'est que normalement, là, si on conduit avec un portable, on enlève des points, et après, on se prend une suppression de permis très longue qui là peut être vraiment très handicapante, alors que là ce serait plutôt dans l'esprit on retire moins longtemps mais plus vite dès le début pour éduquer quoi. Voilà. Je le trouve plutôt intelligent.
C'est avec une peine rapide, en fait. Ouais. Voilà.
Premier délit.
C'est un peu ce que je préconise pour les jeunes.
Bah, on a vu que récemment, je crois que c'est au mois de mars, les chiffres de la sécurité routière n'ont pas été bons du tout.
Horrible.
Et donc,
une hausse de 31%
voilà,
de morts.
30%, j'avais vu ça. Donc, je pense que, si on a réussi, qu'on raconte pas d'histoire, si on a réussi à faire baisser les chiffres de la sécurité routière depuis un certain nombre d'années, c'est avec un certain nombre de mesures coercitives qui ont fait que, il y a eu une prise de conscience. Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas tenir un discours, là aussi, branché sur courant alternatif. On voit qu'il y a une volonté de taper du poing sur la table par rapport à des familles de jeunes qui créent un certain nombre de difficultés. Par rapport à la sécurité routière, on ne peut pas, de la même manière, estimer que c'est en ne bougeant pas que les lignes vont bouger. Donc je pense que c'est en lien avec ça et je pense que c'est une bonne idée.
Ah, il faut faire comme en Italie. Donc, Apolline Matin, ce matin sur RMC. Prenez-vous votre douche tous les jours? C'est un préjugé que les étrangers ont sur les Français. Nous ne serions pas très propres. Bah oui, voilà ce qu'on pense de nous. Une étude nous a comparé avec les Américains et Sébastien Krebs nous en présente les résultats. Est-ce qu'on est propre ou pas? La réponse.
D'abord, qui ne se lave pas tous les jours? Alors, c'est quasiment quand même un Français sur 5, 19%.
Eh ben, on est 5 autour de cette table. Nous, on ne s'est pas lavé ce matin.
Aux États-Unis, c'est encore pire. 30% des Américains ne se lavent pas quotidiennement. Brossage des dents, là, les Français sont plutôt bons élèves. Nous ne sommes que 4% à ne pas nous laver les dents tous les jours. Et aux États-Unis, c'est presque un Américain sur 10 qui laisse la brosse à dents de côté certains jours. Par contre, aux États-Unis, on se lave plus souvent les mains qu'en France. C'est vrai qu'ils sont un peu plus, 96% à se laver les mains en sortant des toilettes. En France, c'est un peu moins. Et en plus, on se rend compte que les habitudes se perdent, c'est-à-dire que 12% des Français disent qu'ils se lavent les mains moins souvent qu'à l'époque du Covid, où on avait pris des bonnes habitudes.
Ah oui, on a perdu certains bons réflexes.
Voilà. On est propre, on n'est pas propre. Tout le monde se lave tous les jours. Très bien, parce que vous ne le diriez pas.
Non, mais l'été, deux fois. Ça arrive en été,
en vacances, ou alors quand t'es vraiment en mode glande dans le canapé tout le week-end, que tu skips un jour, quoi. C'est pas non plus la fin du monde, quoi.
Mais jamais de la vie. Mais même si je glande sur mon canapé, je vais me doucher avant. Je préfère glander propre.
Évidemment, quand on a une vie active et qu'on va au travail tous les jours, il y a une douche par jour, c'est évident. Mais quand on traîne à la piscine qu'on est en été, que c'est les vacances et qu'on prend
on
oublie de prendre sa petite douche. C'est pas très...
Ça, c'est impossible.
L'été, c'est pas possible.
Mais même l'hiver.
Je ne sais pas.
Tu vas te laver dans la mer.
Sans avoir pris une douche.
Mais oui.
Je rentre dans mes draps en étant propre. Mes draps, ils sont pas là pour me nettoyer. Ils sont là pour dormir dans de bonnes conditions. Et le matin, je prends ma douche. Voilà,
t'as pris ta douche le matin. T'as glandé sur ton canapé toute la journée.
Et arrive
le soir. Et t'as pas non plus accumulé une saleté incroyable.
Mais si.
Tu ramènes tous tes trucs dans ton lit.
Et toi, en ce moment, regarde, il y a plein de pollen, etc. Pour tous les allergiques, je peux dire tous les allergiques, le soir, là, en ce moment, ils se lavent et ils se lavent les cheveux. C'est-à-dire, au moins, ils se rincent les cheveux pour enlever tous les pollens et tout, parce que sinon, ça, c'est le meilleur moment de passer les nuits absolument atroces.
Je ne peux pas me permettre d'aller en été, de pas prendre deux douches par jour.
Non, mais pour entretenir ses défenses immunitaires,
je suis comme Benjamin, je me lave les cheveux deux fois par jour.
Allez, dans un instant, il y aura RMC s'engage avec vous. On va revenir, vous savez, sur l'affaire des vitraux de Givor avec les vitraux du prêtre pédocriminel. Tout le monde voulait les faire enlever. On a du nouveau dans ce dossier. C'est un dossier qu'on suit depuis de très très nombreux mois. On en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h52, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est le moment de vous aider avec Guillemette Franquet. RMC, ça s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et Guillemette, aujourd'hui, on reparle d'un dossier que vous avez entre les mains depuis plusieurs mois déjà. C'est le dossier des vitraux du prêtre pédocriminel Louis Ribe à Givor.
Exactement, un abbé décédé il y a 30 ans. Entre les années 50 et 90, Louis Ribe a fait poser des enfants dans son atelier dans le Rhône. Après sa mort, des centaines d'entre eux l'ont accusé d'agression sexuelle et de viol. Des faits que la justice n'a jamais pu juger, mais que l'Église, elle, a reconnu. Certains de ces vitraux, inspirés de ces scènes d'horreur, décoraient des églises près de Lyon, 6 au total. 3 mairies les en ont fait retirer, dont la dernière en date, il y a 3 jours, à Charlie. Des victimes du prêtre Louis Ribe sont venues assister à la dépose. Parmi elles, il y avait Annick.
Ça nous permet à tous, finalement, de retrouver un semblant de sérénité, parce qu'on a été entendus. C'est quand même énorme. Oui, enfin.
Voilà, à ce jour, il y a 50 victimes comme elle, comme Annick, qui ont porté plainte.
Et il reste pourtant, Guillemette, encore 3 églises ornées des vitraux de ce prêtre pédocriminel. Tout le monde le sait et pourtant ils sont encore là.
Exactement. Alors, donc, vous l'avez dit, il y en a 3. La première, Loire-sur-Rhône, s'est engagée à les retirer d'ici fin juin.
Très bien.
Caluire, qui le fera fin août, début septembre. Et puis il reste Givor. Voilà, Givor, qui refuse catégoriquement de les retirer, car selon son maire, il faut distinguer l'homme de l'artiste. Voilà, pour les victimes comme Annick, et on la comprend, c'est intolérable.
Qu'est-ce qui l'empêche de faire cette dépose parce qu'on lui demande finalement pour avoir un semblant de réparation, de justice qu'on n'aura jamais.
Voilà, ça fait un an qu'au sein de notre cellule, RMC s'engage avec vous, hein, vous le disiez, Estelle. Nous, on échange avec le maire de Givor, Mohamed Boudjelaba. Il n'a pas répondu à nos dernières sollicitations. Et d'ailleurs, il refuse désormais de parler avec le diocèse de Lyon, qui lui soutient pourtant totalement le retrait des vitraux.
Mais comme d'habitude, évidemment, Guillemette Franquet, vous n'avez rien lâché.
Exactement. Et avec Solène Leroux, nous avons interpellé tout, mais alors vraiment tous les élus du coin. Le Grand Lyon, les sénateurs, le député. On est même allé jusqu'à Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Le parti avait en effet soutenu le maire de Givor aux dernières municipales en 2020. Et ce parti pourrait prendre une décision radicale. C'est une information RMC. Si Mohamed Boudjelaba, le maire de Givor, ne plie pas, eh bien les écologistes envisagent de lui retirer leur soutien pour les prochaines municipales dans 2 ans.
Très bien.
On continue évidemment, vous vous en doutez, à suivre ce dossier de très très près. Et surtout, on espère que le maire de Givor va finir par accéder à la demande des victimes.
Et certainement à la demande de sa population aussi, parce que voilà, une fois qu'on le sait, c'est intolérable d'arriver dans une église et de voir ces scènes, parce qu'en fait, le problème aussi de ces vitraux, c'est que ces vitraux sont inspirés de ces scènes-là. Quoi. Donc,
on voit des enfants voilà, à genoux devant des adultes, villages, quoi.
C'est ça. Voilà, donc c'est absolument intolérable de devoir garder ça. En tout cas, bravo de vous battre comme ça dans ce dossier. Guillemette, bravo à toutes les équipes d'RMC s'engagent avec vous. Et si vous aussi, vous voulez être aidé par toutes ces équipes, eh bien, vous nous envoyez un mail à l'adresse rmcavecvous@rmc.fr. Dans un instant, on va voyager direction les États-Unis. On s'inspire de plus en plus d'habitudes US. Est-ce qu'on est en train de devenir des ricains, tout simplement? Eh bien, écoutez, c'est la question qu'on vous posera dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.